Danone. Le tour de passe-passe d'Emmanuel Faber. Par Martine Orange. Lu par Arnaud Romain.
Journal. Participation.
Mediapart.
Jusqu'où une décision qui se présente comme stratégique sert-elle à conforter un pouvoir personnel? L'étrange enchaînement des faits qui s'est produit ces derniers jours chez Danone amène à reposer la question. Dimanche 28 février, à la veille d'un conseil d'administration annoncé comme décisif pour le maintien ou non du PDG Emmanuel Faber, le groupe alimentaire a annoncé la cession à venir de sa participation dans le géant chinois Mengniu, valorisé autour de 850 millions d'euros. Le produit de cette vente, a promis le groupe, devrait être restitué en grande partie aux actionnaires, sous la forme de rachat d'actions dans le courant de l'année. Danone a beau avancer un simple hasard de calendrier, jurer que cette cession était discutée depuis octobre, que le nouvel an chinois a retardé les négociations avec les autorités de Pékin, beaucoup ont du mal à croire ces explications. Alors que le groupe agroalimentaire traverse une grave crise interne depuis l'automne, avec la rébellion d'une partie de ses actionnaires, le conseil d'administration était lui-même divisé sur la gestion d'Emmanuel Faber. Cette cession opportune apparaît comme un expédient. Frédéric Genevrier, cofondateur d'OFG Recherche, analyse. La direction essaie d'acheter ses actionnaires en lâchant des centaines de millions. Mais les investisseurs qui contestent la gestion du groupe n'ont jamais demandé de dividendes exceptionnels ou de rachat d'actions. Ils demandent des changements stratégiques pour soutenir la croissance. Les décisions prises ne changent rien à la réalité de Danone. Après 3 heures de conseil, le 1er mars, les administrateurs de Danone ont pourtant l'impression d'avoir donné des gages de changement, tout en gardant la main. Soucieux de ne pas se laisser déborder par des actionnaires en rébellion et qui menaçaient de porter le conflit en Assemblée générale, le conseil d'administration a choisi de gérer par avance la question de la gouvernance du groupe. Comme le demandaient des fonds, notamment le fonds activiste Bluebell et la société de gestion Artisan Partners, entrés ces derniers mois au capital de Danone, le conseil d'administration a entériné la séparation des fonctions de président et de directeur général. À l'avenir, Emmanuel Faber ne sera plus que le président du groupe. Un nouveau directeur général, assumant la gestion quotidienne, devrait être choisi et nommé dans les mois à venir. Entre-temps, Emmanuel Faber continuera à être PDG. Cette annonce n'a pas eu l'effet apaisant escompté. Dans la journée du 2 mars, le cours de Danone a perdu plus de 2% sur un marché en hausse. Un connaisseur du dossier commente « Cette séparation ne suffira pas à calmer la crise qui couve dans le groupe, car cela ressemble par trop à un habillage. » Les groupes français ont en effet une manière toute personnelle d'interpréter les règles de gouvernance et la séparation des pouvoirs. Dans les faits, le président continue à agir comme s'il était PDG. Renault en offre un exemple. C'est Jean-Dominique Sénard, président du Conseil du constructeur, qui a fixé la stratégie du groupe et son début de mise en œuvre au printemps dernier, avant même le directeur général, Luca De Meo, qui a pris ses fonctions début juillet. De la même manière, Jean-Pierre Clamadieu, président du Conseil d'Engie, a fixé toutes les lignes stratégiques du groupe, décidé la cession de Suez, arbitrer la scission du groupe en deux grandes entités, avant même que la directrice générale, Catherine McGregor, ne soit désignée. Ce connaisseur du dossier poursuit « Chez Danone, la séparation risque aussi de n'être que sur le papier. Peu imaginent, en effet, qu'Emmanuel Faber abandonne une once de pouvoir. Ce catholique fervent, soutien à ses heures perdues par le biais de sa fondation personnelle, la Fondation des Bois, du mouvement La Manif pour tous et de Frigide Barjot, est un adepte du pouvoir brutal et solitaire, critiqué jusqu'au sein de son conseil. Un observateur commente « Il fait le vide autour de lui. » Ces dernières semaines, alors qu'il a été mis sur la sellette, l'énergie qu'il a déployée auprès des politiques et des syndicats du groupe pour défendre son poste montre qu'il n'est pas prêt à renoncer. Loin d'instituer un rééquilibrage ou de mettre en place des contre-pouvoirs, les dernières décisions du conseil d'administration viennent plutôt conforter la pente naturelle d'Emmanuel Faber. Pour l'accompagner comme administrateur référent et président du comité de gouvernance, le conseil a choisi de désigner un de ses proches, Jean-Michel Severino, l'ancien inspecteur des finances, plus spécialiste des fondations que de l'agroalimentaire. Surtout, c'est à Emmanuel Faber qu'il reviendra de participer à la désignation de son directeur général. Autant dire que ce dernier risque d'être cantonné à un rôle de simple exécutant. D'autant que, là encore, la stratégie à mettre en œuvre est déjà arrêtée. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le plan Local First. C'est ce plan présenté en novembre qui avait pourtant mis le feu aux poudres au sein du groupe. 2000 emplois, dont 400 en France, essentiellement des cadres, sont appelés à disparaître. Pour redresser la rentabilité et le cours de bourse du groupe, touché par la crise sanitaire, les grandes unités par ligne de produits, eau, produits laitiers, nutrition infantile, dirigées au niveau mondial, sont appelées à disparaître. L'organisation, désormais, se fera par zone géographique. D'où la nécessité, selon Emmanuel Faber, de couper dans les sièges du groupe. Ce grand chamboule-tout est loin d'avoir convaincu tout le monde. En septembre, quand le plan a commencé à être présenté au sein du groupe, deux figures historiques de Danone, Cécile Cabanis, chargée des finances et considérée comme le numéro 2 du groupe, et Francisco Camacho, directeur des produits laitiers et d'origine végétale dans le monde chez Danone depuis 20 ans, ont démissionné. Dans un premier temps, la direction de Danone a choisi de minimiser ses départs en les présentant comme un concours de circonstances. Aujourd'hui, les multiples témoignages prouvent qu'ils ont été plutôt poussés dehors. Même si pour rattraper la bévue, le conseil a décidé de nommer Cécile Cabanis comme administratrice par la suite. Mais les désaccords ont aussi traversé le conseil. Dès l'automne, plusieurs administrateurs se sont élevés contre la direction solitaire d'Emmanuel Faber et ses choix. Même Franck Riboud, qu'il l'a pourtant choisi comme successeur en 2014, s'est inquiété de ce plan, comme le rapporte le quotidien Le Figaro, dont l'article est à retrouver dans le corps du papier. Ce n'est qu'après cette crise interne que les fonds activistes sont entrés dans le jeu. Quelles que soient les méthodes et les motivations détestables de ces fonds activistes, leur arrivée doit se lire comme une alarme pour les groupes. Comme l'a prouvé le cas Lagardère, leur montée au capital signale des faiblesses, des dysfonctionnements, des erreurs de stratégie, une crise latente ou ouverte de direction au sein des entreprises. Danone, aussi emblématique soit-il, n'échappe pas à ce constat. Et il n'est pas sûr que le conseil d'administration ait apporté de bonnes réponses. Même s'il a approuvé le nouveau plan de réorganisation à l'unanimité, les critiques et les interrogations qui ont été formulées contre ce dernier demeurent. Répond-il vraiment aux besoins de renouvellement de Danone? La mondialisation, le retour aux marchés locaux, les changements de consommation, la préoccupation d'une alimentation plus respectueuse et plus saine, une agriculture durable, la montée du véganisme, mis en avant par Danone comme des facteurs d'explication de son nouveau plan social, sont des tendances lourdes, à l'œuvre depuis plus de 10 ans. Et depuis qu'il préside le groupe, Emmanuel Faber n'y a répondu que par des plans de réorganisation, d'économie, de suppression d'emplois. Après One Health, puis Protein, Local First est le troisième plan de restructuration qu'il annonce en moins de 5 ans. Tout cela s'inscrit dans une logique purement financière, loin de la gestion à long terme, de la vision d'entreprise à mission prônée par son PDG. La décision sur l'argent tiré de la vente de sa participation dans le groupe chinois Mengniu renforce cette tendance. Au lieu de choisir de conserver cet argent pour soutenir son développement, la recherche et l'innovation qui ont fait le succès de Danone pendant des décennies, Emmanuel Faber préfère racheter ses actions, la forme la plus stérile de redistribution de capital. Cela lui permet de consolider la rente de Danone et son pouvoir, au moins momentanément.
Mediapart.